où le policier municipal n'a pas sa place. Et un policier municipal doit être armé pour assurer sa défense et la défense d'autrui. Si on place un policier municipal dans une école non armée, cela ne sert à rien. S'il y a une attaque terroriste, il est évident que le ou les terroristes cibleront en premier et neutraliseront le policier municipal. On place le policier municipal en situation de cible et de cible facile puisque lui n'aurait donc aucun moyen de riposte ni aucun moyen de défense face à une attaque terroriste.
Cédric Michel, joint par Maxime Fayol, des réactions côté enseignants également. Ce qu'il nous faut dans les écoles, ce ne sont pas des policiers, mais des secrétaires administratifs, des ATSEM et des infirmières scolaires, dénonce la CGT Éducaction. Parmi les autres sujets évoqués par Jean-Michel Blanquer ce midi, le projet de réforme du bac, dans la continuité du rapport Mathiot remis au ministre il y a quelques jours. C'est quasi certain, a dit le ministre, il y aura moins d'épreuves au bac, un grand oral et plus de poids donné au contrôle continu.
Le bac de 2021, je le dirai le 14 février en Conseil des ministres, je présenterai la réforme du baccalauréat. Ce qui est certain, là, la chose qui est l'ossature, c'est 4 épreuves terminales et le reste en contrôle continu. Tout le reste, c'est fait pour être discuté, même
qui pèsera à peu près 40% de la note
totale
du bac.
Mais même ça, le pourcentage, là, la proposition, c'est 40% pour le contrôle continu. Je trouve que c'est une proposition très intéressante. Elle recueille plutôt mon adhésion, mais je vais écouter. On peut tout à fait faire évoluer ça s'il y a lieu. Il y a bien d'autres sujets. Mais on a eu une méthode pour arriver à ce que je pourrais présenter le 14 février.
Jean-Michel Blanquer était l'invité de Questions politiques sur France Inter. Le détail de ses interventions est à retrouver sur franceinter.fr. Des propositions claires, nettes et définitives. Avertissement lancé par Nicole Belloubet en direction de FO et de la CGT. La garde des Sceaux a de nouveau appelé les personnel de prison à reprendre le travail après un week-end qui a vu la mobilisation faiblir. Seulement 7 prisons sur les 188 établissements voient encore leur fonctionnement perturbé. FO et CGT tentent de maintenir la pression sur le gouvernement malgré la validation des propositions de sortie de crise par l'UFAPUNSA, le syndicat majoritaire. Les personnels qui ne seront pas présents à leur poste demain s'exposent à des sanctions, prévient ce soir la ministre. Nicole Belloubet encore sur le sort des détenus français en Irak ou en Syrie. La France, dit la garde des interviendra si des djihadistes français sont condamnés à la peine de mort. Jusqu'à présent, le gouvernement français s'était dit favorable à ce que ces personnes soient jugées sur place à condition de bénéficier d'un procès équitable. Ce n'est pas comme la plaie d'Égypte, pas même une plaie d'ailleurs, une montée des eaux, loin des records. La Seine devrait atteindre à Paris son pic de la crue la nuit prochaine, entre 5,85 m et 5,95 m, puis arrivera la décrue. Pas pour tout le monde en revanche, Vigicru prévoit encore la hausse du niveau sur les boucles de la Seine, en aval de Paris, près de Rouen notamment. Conséquence et désagrément, le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé jusqu'au 5 février minimum. Et puis, pour les particuliers, les professionnels, touchés par les inondations, il faudra s'armer de patience. À Condé-Sainte-Libière, en Seine-et-Marne, par exemple, la vie quotidienne est assez difficile, en particulier pour les commerces, Evan Le Bastard.
Ahmed Aïdou gère la seule supérette du village et pour faire ses courses là-bas, un seul moyen, la barque.
On est dégarni en fruits et légumes, on n'a pratiquement plus rien. Produits frais, pareil, en viande, en yaourt, en charcuterie. On a dû retirer les trois quarts. Pour l'instant, le magasin est bien dégarni.
Le dernier approvisionnement de sa supérette date de la semaine dernière. Une semaine catastrophe que le commerçant a peur de payer encore longtemps.
On est un peu dans le rouge niveau bancaire. Quand on a un trou comme ça, d'une semaine à une dizaine de jours sans recette, alors que les prélèvements, les charges, etc. continuent, la balance penche du mauvais côté. Donc pour remonter la pente, ça va être assez long.
Le manque à gagner serait entre 5 000 et 10 000 euros selon le gérant. Et pour un remboursement par son assurance, il va falloir attendre.
Les contraintes des assurances, c'est assez compliqué à ce qu'ils remontent sur plusieurs années par rapport aux recettes quotidiennes pour évaluer la perte financière. Les comptes de résultats sur plusieurs années, c'est assez contraignant.
Ahmed Aïdouche a demandé une livraison d'urgence pour demain. Mais la décrue plus lente que prévue ne met pas le commerçant en confiance. Il pourrait attendre encore jusqu'à mercredi.
La Météo France maintient 11 départements en vigilance orange aux inondations. La Saône-et-Loire, l'Eure, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, la Marne et l'Aube. Une série politico-financière qui devrait inspirer les meilleurs scénaristes américains et français. Le nouveau chapitre des affaires judiciaires de Bernard Tapie, révélé par Mediapart. L'année dernière, le tribunal de commerce de Paris avait évité à l'homme d'affaires la saisie de ses biens, mais aussi permis l'étalement sur 6 ans du remboursement des 404 millions d'euros de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. On apprend aujourd'hui que le parquet de Paris a ouvert le 30 août dernier une information judiciaire et on entre dans le méta de l'affaire, car le jugement du tribunal de commerce est visé par une plainte contre X pour escroquerie, Charlotte Piret.
C'est un peu l'escroquerie dans l'escroquerie dont est soupçonné Bernard Tapie, condamné pour l'arbitrage frauduleux dans l'affaire du Crédit Lyonnais à rembourser 404 millions d'euros à l'État. Il s'était vu offrir un répit de 6 ans par le tribunal de commerce de Paris en juin dernier. La décision avait alors créé la surprise, l'indignation même des avocats de la puissance publique, la colère du parquet qui avait alors décidé de faire appel de cette décision. Mais pas seulement, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Une information judiciaire a en plus été ouverte moins de 2 mois après cette décision. Information judiciaire pour escroquerie au jugement, car il apparaît que cette décision du tribunal de commerce de Paris, qui offre à Bernard Tapie la chance inespérée de ne pas voir saisir son hôtel particulier au cœur de la capitale ou sa villa du Var pour rembourser ses dettes, cette décision n'aurait été prise que sur simple foi d'une expertise financière, non pas indépendante, mais commanditée par Bernard Tapie lui-même. Rapport qui, de plus, aurait faussé la donne sur le bilan financier de la Provence, le quotidien régional dont l'homme d'affaires est l'actionnaire majoritaire. Bref, on serait loin d'un jugement impartial dont, hasard du calendrier, l'appel doit être examiné ce mardi.
Charlotte Piret, il a l'habitude des prisons russes. Alexei Navalny, premier opposant à Vladimir Poutine, autoproclamé et dans les faits aussi. Il avait appelé à manifester aujourd'hui dans tout le pays pour dénoncer la présidentielle du 18 mars prochain, scrutin qu'il considère une parodie d'élection présidentielle. Navalny, à défaut d'avoir été autorisé à se présenter contre Poutine, souhaite un boycott populaire pur et simple, et pour cela, il a été arrêté avec plusieurs partisans à Moscou aujourd'hui, Claude Brouillot.
Moins nombreux qu'au printemps dernier, mais toujours aussi déterminés. Les sympathisants d'Alexei Navalny dénoncent encore la corruption du pouvoir, mais en plus, cette fois, ils réclament carrément le départ de Vladimir Poutine. Comme en 2017, Alexei Navalny a donc été arrêté pour avoir organisé à Moscou sa manifestation en un lieu interdit, sur une avenue principale du centre-ville, à moins d'un kilomètre du Kremlin. Une centaine d'agglomérations russes étaient le théâtre de ses premières démonstrations de l'opposition hors système depuis le début de la campagne électorale. Toute la question est maintenant de savoir, en l'absence d'Alexei Navalny, qui risque une nouvelle peine d'emprisonnement si ces rassemblements vont se poursuivre, toujours pour rappeler les Russes à boycotter la présidentielle du 18 mars. La difficulté sera double pour le collectif anticorruption, agir sans son leader et maintenir la pression sur le pouvoir, alors que plusieurs de ses bureaux dans la capitale et en région ont fait l'objet d'interventions policières. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
En tout, 243 manifestants dans tout le pays auraient été arrêtés. Pour Navalny, c'est la troisième fois. Il a été inculpé cette fois-ci de violation des procédures concernant l'organisation d'une manifestation. Les derniers matchs aujourd'hui de la 23e journée de Ligue 1 de football. On file à Marseille au Vélodrome. OM Monaco, match important pour le podium du classement et match nul de partout finalement, Jean-Pierre Blimaud.
Oui, le vainqueur pouvait monter seul sur la deuxième marche du podium, mais Marseille et Monaco se sont donc neutralisés. Ils n'ont pas fermé le jeu, au contraire. Dans un match spectaculaire et très engagé, Monaco a ouvert le score dès la 4e minute par Keïta. Marseille a égalisé par Rami 4 minutes plus tard. Rami qui s'est racheté puisqu'il avait commis une petite erreur sur le premier but monégasque. Marseille, qui voulait s'approprier à tout prix cette deuxième place devant son public, a pris l'avantage dès le retour des vestiaires. 47e minute, Germain reprend de la tête un coup franc de Payet, mais 4 minutes plus tard, Monaco a encore égalisé après un raid solitaire de Fabinho. Monaco a même marqué un troisième but refusé pour un hors-jeu peu évident. Alors ce que l'on peut dire, c'est que Marseille s'est procuré quand même les plus belles occasions de fin de match. Germain sur une splendide reprise de volée et puis un tir de Sanson. Mais au final, Lyon est toujours deuxième au classement à égalité avec Marseille. Monaco est quatrième à un point des deux. Marseille, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et dans la journée, Lille a gagné à domicile contre Strasbourg 2-1 et Bordeaux s'était donc offert l'OL 3-1. En rugby, fin de la 16e journée du top 14, le Stade français a pris 6 essais palois avant de s'incliner, victoire de Pau 40-5 et puis défaite de Clermont contre Montpellier 30-29, Clermont champion de France qui voit s'éloigner quasi définitivement la phase finale du top 14. L'Euro de handball 2018 à Zagreb en Croatie s'est terminé. L'Espagne est sacrée pour la première fois championne d'Europe après un match serré contre la Suède, score final 29-23. Et puis joli lot de consolation pour les experts, médaillés de bronze de l'Euro. La France a battu tout à l'heure le Danemark en petite finale 32-29. L'ailier de Montpellier, Valentin Porte, très marqué après la défaite en demi-finale contre l'Espagne, a retrouvé le sourire ce soir.
Ça aurait été vraiment scandaleux après ce qu'on a montré en demi-finale de ne pas répondre présent et de remontrer la même chose ce soir. Donc voilà, maintenant je ne vous cache pas que ça a été dur. Ça a été dur. Personnellement, même une heure avant le match, c'est dur de refaire le sac, d'y aller en se disant que voilà, ce genre de match, il y a quand même une ambiance toujours un peu bizarre. Ça met peut-être un peu de temps à se mettre dedans, mais voilà, tout ça après quand on est dans le match et qu'on voit qu'on mène et qu'on peut aller chercher quelque chose et qu'on voit les comportements de chacun, ben, ça fait quand même vraiment plaisir de voir ça. Et après tout, ça reste une médaille européenne. Hein. On sait bien que le championnat d'Europe, c'est la compétition la plus compliquée chez nous, donc une médaille de bronze. Moi, si on m'avait dit ça en novembre, j'aurais signé de suite. Hein. Donc voilà, il faut voir le bon côté des choses. Moi, ça me fait plaisir pour ceux qui n'en ont jamais gagné, parce que je les vois, ils ont pris la parole, ils ont dit, pour nous, c'est équivaut à une médaille d'or. Pour nous, c'est notre première médaille, peut-être notre seule en équipe de France. Donc c'est vrai que ça touche. Donc rien que pour ça, on avait à cœur de zoner à 120%.
Valentin Porte au micro de Xavier Monferrand. C'est la fin d'une ère dans le monde de l'édition à mesure que ses figures disparaissent. Bernard de Fallois et Paulo Tchaïkovski Laurence au tout début du mois. Hier, Jean-Claude Lattès, à l'âge de 76 ans, c'est son ami Bernard Pivot qui l'a annoncé aujourd'hui, l'un des grands découvreurs d'écrivains populaires de notre temps pour Emmanuel Macron. Des succès littéraires en pagaille depuis ses débuts en 1968, éditeur populaire, généraliste diront certains, de Jean d'Ormesson à Amin Malouf, en passant par Jacques Mesrine, son autobiographie, ou encore Irène Frein, dont Lattès a publié le premier roman Le Nabab en 1982.
Je l'ai rencontré à travers Nicole Lattès, son épouse, et c'était un couple d'édition extraordinaire. C'était des êtres qui avaient le don de rendre possible ce qui paraissait impossible. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont appris. J'avais l'impression d'un être totalement solaire et qui précisément considérait que toutes les barrières pouvaient être abattues. Il avait raison. L'un et l'autre, et peut-être plus particulièrement Jean-Claude, avait un regard sur les livres qui étaient celui de l'édition américaine et de la culture américaine dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on en rêve et on le fait.
Irène Frein au micro de nos confrères de France Info. Et puis fin de la polémique, Maurras, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a décidé de retirer le nom de l'écrivain d'extrême droite Charles Maurras du livre des commémorations nationales 2018. Pour lever l'ambiguïté, précise-t-elle, de nombreuses associations antiracistes avaient fait part de leur colère cette semaine de voir la France commémorer à la naissance de l'intellectuel fer de lance de l'Action française et soutien du régime de Vichy. Le temps de demain avec les prévisions de Météo France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
De la grisaille, Jean-Michel Golinski.
Pas de changement d'un jour sur l'autre. Ce lundi, le temps va conserver exactement les mêmes caractéristiques que la veille, à savoir des températures toujours au-dessus des normes l'après-midi, entre 10 et 13 degrés en général, 14 au pied des Pyrénées, 16 autour de la Méditerranée, avec des gelées vers 0-2 degrés aux premières heures, notamment dans le quart sud-ouest. Une grisaille toujours très compacte à partir du Poitou-Charentes, du centre de la Bourgogne et de la Franche-Comté, en remontant vers la Belgique et les côtes de la Manche. Plus bas, les brouillards et les nuages bas de vallée pourront traîner une partie de la matinée, mais ensuite le soleil va se montrer partout. Il sera particulièrement vaillant près des Pyrénées, des Alpes, sur la montagne Corse et dans le golfe du Lion.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30.
Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous.
Avec Philippe Bertrand.
Les carnets dans le Finistère. Demain, l'action des compagnons bâtisseurs en Bretagne pour rénover l'habitat des personnes défavorisées. Et puis une maison d'interprétation des légumes et de l'alimentation dans une ferme pionnière du pays de Léon.
Carnet de campagne.
Demain sur France Inter à 12h30.
France Inter, il est 23h15. Bonne soirée à tous à l'écoute de Dans tes rêves. Bonsoir Laurence Garcia.
Merci beaucoup Adrien Toffolé. On vous retrouve tout à l'heure à minuit sur France Inter.
Je parle tout bas pour ne pas me réveiller. Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves!
C'est impossible!
Vous êtes en retard pour le thé!
Mais seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans Dans tes rêves, il y a une mère et une fille qui tentent de se parler dans un parloir de prison. Chacune derrière la vitre, elle cherche les bons mots. L'une ne jure qu'en la révolution pour changer le monde, quitte à être hors la loi. Quand l'autre répond philosophie et vivons cachés, quitte à être hors du monde. La mère et la fille ont beau s'aimer, il y a trop de formules entre elles, trop de secrets, trop de fantômes qui ne disent pas leur nom. Dans tes rêves, la fille sort de prison et c'est la mère qui doit à son tour dire toute la vérité, rien que la vérité. Elle a trouvé un super avocat, un type réputé pour traquer les censeurs de l'histoire et les fantômes de famille. Un expert du mentir vrai, c'est son métier, c'est sa nature. Et en plus, l'avocat n'est pas si cher, quoique. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui d'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, ma première est écrivaine, professeure de philopolitique, chroniqueuse culturelle. Magda, c'est son dernier roman et c'est chez Julliard. Bonjour, bonsoir, Mazarine Pinjot.
Bonsoir.
Que pensez-vous de mon rêve très, très librement inspiré de votre dernière saga familiale?
Il était parfait.
C'est vrai?
C'était un très bon résumé.
Bon, bah voilà, tiens, une autre quatrième de couve.
Exactement. La prochaine fois, je penserai à vous.
Oh, bah super. Ouais. Encore une fois, il y a pas mal de non-dits, il y a pas mal de secrets de famille, c'est un petit peu votre marque de fabrique. Pour de vrai, vous croyez, vous, aux fantômes qu'on appelle transgénérationnels ?
Ah oui, complètement. Je suis pas sûre que ce soit l'objet d'une croyance, d'ailleurs, je crois que ça se vérifie. Il y a des psychanalystes qui se penchent sur cette question du symptôme dont on ne peut rendre compte qu'à condition d'interroger la filiation. Donc c'est pas l'objet d'une croyance, me semble-t-il. Et oui, bien sûr qu'il y a des fantômes. Bien sûr, il y a des fantômes tant que les choses ne sont pas exprimées, mises en mots, demeurent des fantômes. Ça me paraît évident, oui.
De l'invisible dans les arbres généalogiques. Mon second, je prends mon souffle, avocat, conservateur du musée du barreau de Paris, romancier, éditeur, historien de la franc-maçonnerie, collectionneur, explorateur des grandes affaires, de J'accuse à juger mai 68 en passant par Omar Mathué, entre autres, c'est aux éditions Point. Bonjour, bonsoir, Emmanuel Pierrat.
Bonsoir, Laurence Garcia.
Ça fait beaucoup pour un seul homme, hein?
Oui, il y avait une formule que moi j'aimais bien, que Cocteau répliquait quand on lui disait « vous êtes un peu touche à tout », il disait « non, tout me touche ».
Oh, c'est joli,
voilà,
ça.
Que je décidais de faire mienne parce que voilà, c'est un reproche qu'on me fait parfois. Et je trouve la réplique très belle.
Reproche parce qu'on aime bien...
catégoriser, oui. Et puis penser qu'il faut s'atteler à une seule ou ne s'intéresser qu'à un seul aspect de l'existence. Alors il y a tant de choses passionnantes et extraordinaires à raconter ou à regarder ou à humer.
Je vous ai imaginé dans mes rêves l'avocat imaginaire des personnages imaginaires de Mazarine Pinjot. C'est plausible, non?
C'est plausible, oui. Il y a beaucoup de personnages à défendre. Elle les défend très bien, mais elle les met dans des situations qui quand même sont parfois périlleuses, avec beaucoup de talent. Donc elle arrive à les sortir d'affaires. Mais je serais prêt à voler à leur secours. Et vous avez raison, je suis pas si cher que
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Ça dépend par rapport à qui ou à quoi. Des fantômes. On parlait des fantômes de famille. Alors vous devez en croiser des fantômes pas très cool en gérant toutes les histoires d'ayant droit, d'héritage, de succession. Les fantômes bien réels, morts ou vivants d'ailleurs.
Oui, tous les héritiers ne sont pas abusifs. Hein. Vous savez, on a, il y a des héritiers abusifs, il y a des veuves abusives, il y a des gigolos avides, il y a un peu de tout, mais il y a aussi des gens très bien qui incarnent la mémoire, qui portent une œuvre. Et effectivement, j'en vois énormément. Puis de l'autre côté, effectivement, d'autres qui ont pour profession d'être seulement héritiers. Et là, ça devient compliqué.
C'est ça. Alors, vous connaissez dans la vraie vie. Vous êtes l'avocat de Mazarine Pinjot.
C'est arrivé.
Ça arrive en tout cas jamais contre Mazarine, toujours.
Ça, je me doute. On parle imaginaire dans cette émission, l'un comme l'autre, votre regard sur la vraie vie, le réel, comme on dit, est-ce que c'est à travers le filtre ou de la fiction ou de la philo vous concernant Mazarine Pinjot et vous de la justice avec les coupables et les gentils de l'autre côté, ou c'est plus compliqué que ça? On a besoin d'un filtre ou d'une boîte à outils.
Oui, de toute façon, je pense que il n'y a pas de rapport au monde immédiat. Il est toujours d'ores et déjà filtré. Donc, je ne sais pas ce qui serait en dehors de cette manière d'appréhender les choses, à savoir effectivement aussi très ancré dans mon travail, qui est l'enseignement de philo. Donc, c'est vrai que j'ai un prisme un petit peu comme ça, à conceptualiser, à abstraire, à interroger, mais un peu en faisant un pas de côté, quoi, en me mettant un peu à l'écart. Et j'aime bien, je trouve que c'est à la fois passionnant pas mal de pas être dans la mêlée, quoi. Enfin, voilà.
La mêlée.
La mêlée. Ouais, la mêlée. La mêlée de l'actualité, la mêlée de la politique, la mêlée. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un lieu qui me correspond. Et quant à la fiction, oui, je pense qu'on est toujours déjà en train de fictionner lorsqu'on regarde le réel. Et c'est ça qui est intéressant.
Ne pas être dans la mêlée. L'avocat, il est confronté au réel, forcément. Et en même temps, on dit souvent que la réalité peut dépasser la fiction.
La réalité dépasse heureusement presque tous les jours la fiction. Moi, je suis toujours très content d'aller à mon cabinet et de m'asseoir et d'écouter des histoires incroyables, parce que c'est un des rares endroits, peut-être le dernier endroit où on se confesse. Peut-être aussi chez l'analyste, mais ça dure 7 ans. Donc chez moi, c'est plus court. Et dans un moment où effectivement on ne va plus au confessionnal en tant que tel, aller chez l'avocat dans le secret du cabinet, c'est s'exposer et raconter tout ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose de très fort. Et puis la salle d'audience aussi, le palais de justice que je mets en scène dans mes livres, dans mes grands procès racontés donc chez Point, c'est un moment où il existe une vérité à laquelle pas grand monde ne croit, c'est la vérité judiciaire. Quelque chose, une règle de droit qui s'applique, mais ce qui est important, c'est toutes les vérités qui d'un seul coup éclatent à la barre, où on raconte l'intimité, la sexualité, la violence, la mort, les vengeances, la rancœur, la rumeur, tout ça d'un seul coup est déballé dans l'immunité la plus complète. Dans un procès, on a le droit d'accuser les gens, de les traiter de tous les noms, alors qu'on serait poursuivi immédiatement à l'extérieur du palais de justice. C'est là le paradoxe. Ouais. Au palais de justice, on peut être encore plus violent, si je puis me permettre, ou encore plus direct, pour certains. Et puis, c'est toujours un théâtre extraordinaire parce que les caméras et les micros en sont exclus. Et donc, il y a quelque chose de fascinant.
Tout fantasme sans les images.
Évidemment. Ouais. Comme sur l'univers de la prison, comme voilà, des univers clos dans lesquels notre société avide d'images ne rentre toujours pas. Ou en tout cas, elle doit à un moment ou à un autre poser son appareil photo et écouter. Voilà, ce qui rend la chose extrêmement fascinante. Puis enfin...
Il s'arrête jamais de parler.
Oui, parfois. C'est le principe.
On sent l'avocat.
Quand le président de la Cour finit par dire, ça suffit. Mais ne le dis pas comme ça. Voilà, il ne le dit pas comme ça.
Je ne suis pas président de la Cour, il n'y a pas de problème.
Et non, ce qui est important aussi, c'est que la justice, c'est le miroir de la société. D'ailleurs, la justice n'existe pas, plutôt, c'est l'institution judiciaire, et elle permet d'avoir un miroir extraordinaire de ce qui se passe dans notre monde, de ce qui se dit, de ce qui se trame. Voilà. Pour moi, c'est un prisme, alors là, pour le coup, pour revenir à votre question, extraordinaire sur la société française ou sur l'histoire de France.
On parlera tout à l'heure, à travers notamment votre fiction, Mazarine Pinjot, de la transmission des idéaux, de la révolte, de la colère, de l'anxiogène aussi. Vous situé comment, alors pour le coup dans la vraie vie, du genre idéaliste, utopiste, contrarié, factuel, à regarder le verre à moitié vide, à moitié plein?
Ah bah c'est une bonne question, mais je suis pas sûre de pouvoir y répondre. Je pense que ça dépend des périodes. Il y a pas un caractère essentialiste comme ça qui serait optimiste ou pessimiste. Moi j'ai très peur de la mort, et pourtant je suis assez quand même, si je devais dire une tendance, optimiste. C'est que je pense toujours qu'on va quand même réussir à changer les choses, même si c'est de manière minimaliste. Ouais, en tout cas, je suis pas désespérée non plus, tout en ayant l'idée de la mort en permanence en tête.
Une optimiste, pas désespérée. Mmh. Emmanuel Pierra, vous vous situez comment? Sans la robe
Ah, je me situe beaucoup avec la robe. Non, c'est vrai, le fait de mettre une robe vous oblige aussi à changer de dimension, à être autre chose. Non pas à incarner un rôle, parce qu'on n'incarne pas un rôle, on ne joue pas.
On ne joue pas vraiment?
Non, on joue pas, on joue pas. On peut jouer avec des choses d'acteur, des trucs d'acteur, etc. Évidemment, des effets de manche. Vous savez, l'effet de manche, c'est cette chose qui consiste à faire des grands mouvements. En réalité, c'est quelque chose qui, jusqu'au 19e siècle, moment où on a, à la fin du 19e, on a rajouté un bouton sur les manches des avocats, les empêchant de les jeter en avant pour les faire claquer. Ah. Ce qui permettait de réveiller les tribunaux, parce qu'on plaidait 5-6 heures la moindre affaire de copropriété. Un litige pour un mur,
ça durait... De toute façon, la copropriété,
il y avait donc une possibilité. On a déjà, des grands rabats en soie sur la robe d'avocat. Et donc, quand le tribunal s'endormait, comme vous tout à l'heure, quand vous trouviez ma réponse trop longue...
je ne m'endormais pas.
Non, je sais, vous êtes très vigilante, toi, bien Laurence. Et on lançait ses manches, ça fait schlac. Et puis là, le tribunal se réveillait et on les ramenait de l'autre camp vers soi et ça refaisait schlac. Et pour limiter la durée des plaidoiries, il a été rajouté une règle imposant aux avocats de reboutonner vraiment leurs manches. On nous a rajouté un troisième bouton, fin du grand effet de manche. Mais on peut quand même continuer à...
C'est de là d'où vient l'expression effet de manche.
Moi j'aime beaucoup cette... Parce que c'est le conservateur du musée du barreau qui aime les histoires sur le vocabulaire et la justice. Non, au-delà de ça, il faut être utopiste parce que parfois vous partez au tribunal en ayant tout le monde contre vous, en ayant l'opinion publique, les magistrats, en ayant les avocats des victimes, en ayant voilà, la société à l'encontre de la cause que vous défendez. Et pourtant, chacun a le droit d'être défendu. Et moi, je passe mon temps à dire à mes collaborateurs, avocats dans mon cabinet, qui me disent « mais on ne va pas gagner là, c'est foutu ». Je dis « non ». Il faut trouver le moyen d'y arriver. Ça n'est pas possible. Si vous n'êtes pas avocat, si vous ne pensez pas que c'est possible, s'il n'y a pas une lueur, il y a au moins la lueur de l'humanité, d'aller défendre quelqu'un qui n'est pas un chien, qui est un être humain, qui, quoi qu'il ait fait, mérite une justice dans un état de droit. Et il y a suffisamment peu d'endroits sur la planète où ça existe pour penser qu'il faut vraiment y croire. Voilà. Donc je suis très utopiste. Vous voyez.
Donc, je comprends que ce soit votre avocat, finalement. Des utopistes ou des optimistes, donc, voilà pour la partition onirique jusqu'à minuit, Mazarine Pinjot et Emmanuel Pierrat. Vous aussi, vous postez vos songes sur notre page Dans tes rêves, la page Facebook, la rêve partie du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquet, la réalisation, Nadia Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation, et ce soir à la technique, notre rêveur, Kevin Pelot. Jardin imaginaire d'Étienne Daho, et ce soir nous explorons les rêves de l'écrivaine Mazarine Pinjot et de l'avocat essayiste Emmanuel Pierrat.
Quand j'étais gosse, j'aimais l'odeur du pain grillé le matin, du plastique à recouvrir les livres à la rentrée, et puis les petits pots de colle blanche à l'école.
Dans tes rêves, Laurence Garcia.
Et comme à chaque fois, nous explorons l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient, matière ô combien romanesque. Cette fois-ci, je vais croiser d'ailleurs vos enfances à vous, Mazarine Pinjot et Emmanuel Pierrat, l'une fille de président cachée, multi-exposée, l'autre fils de la banlieue rouge de Pantin, d'un papa militaire pas vraiment de gauche, me semble-t-il.
même très 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 à droite, pour pas dire pire, donc clairement. Oui, paix à son âme, entre guillemets. Je peux me permettre de diffamer, il est enterré désormais. Donc, voilà. Non, mais avec beaucoup d'affection, hein, mais ça n'empêche qu'on peut être réaliste sur ce qu'a été l'environnement politique d'un géniteur.
L'une dans la soif de légitimité et de visibilité, et l'autre carrément dans la revanche sociale. Hein, c'est ce que j'ai lu, Emmanuel Pierrard. Il y avait vraiment... Vous n'avez pas dit « j'ai honte de mes origines », mais quelque part, j'en voulais justement à mes parents de ne pas être de gauche, de ne pas avoir de bibliothèque, de ne pas être lettré, ce qui explique cette soif aussi
oui, mais portée par l'école laïque et républicaine et le Parti communiste.
Banlieue rouge,
bien sûr, avec tout ce que ça signifiait, la bibliothèque Elsa Triolet, la volonté de donner le maximum de culture, des instituteurs incroyables, et qui m'ont dit tout de suite « la direction, c'est franchir le périphérique ».
Ouais. Hein.
Donc, ça veut dire rentrer dans Paris, bien sûr. Évidemment, ça peut sembler très Rastignac, etc., à nous de Paris, mais c'était ça aussi. Et donc, moi, j'ai été exfiltré par le PC, domicilié chez un militant PC dans le 9e pour aller dans un bon lycée parisien, en l'occurrence Condorcet, qui était le lycée où Proust, etc., et beaucoup de choses ont fait leurs études, pour ne pas rester dans ma banlieue rouge où mes instituteurs communistes considéraient que j'allais être gâché.
C'est bien leur rendre hommage aussi. Hein.
Et je les aime toujours. Ouais. J'ai dédié mon premier livre à mon institutrice, vous voyez. J'en ai dédié un autre à ma bibliothécaire. Voilà. Ça s'appelle Payer sa dette un petit peu à une forme de service public.
Ou en même temps, d'ailleurs, le banlieusard dit avoir ressenti dans ce collège fréquenté plutôt par des enfants bien nés, on va dire, un syndrome de caste.
Oui, bien sûr, très fort. Je me souviens de mon voisin de cours de grec, vous voyez, comme je faisais du grec, mais pour un enfant qui habitait en banlieue et qui prenait le métro tous les jours avec une heure de transport, c'était un peu étrange. Et je me souviens surtout de la première chose, je m'assois en cours de grec, j'avais 13 ans, je ne sais plus quoi, et mon voisin me sort la feuille d'impôt sur les grandes fortunes de ses parents. Il avait mon âge, tu vois. Qu'est-ce que fait un gamin de 13 ou 14 ans avec la feuille d'impôt pour me dire, regarde, c'est abominable, on est taxé. Comment dû le dire? Ça forge une conscience politique après, hein. Et on se dit que peut-être on peut faire du grec ancien, l'aimer beaucoup, mais pas être aussi arriéré.
C'est voilà. Ça. Allez, boum! On se construit comme, hein, ou contre ses parents. Vous, Mazarine Pinjot, jamais ressenti de colère vis-à-vis du milieu d'origine, jamais en conflit avec le père ou la mère, jamais de crise d'ado normale.
Ah, quand même. Oui, tout à fait normalement. C'est-à-dire que le milieu d'origine, moi, j'ai du mal à identifier mon milieu parce que, en fait, j'appartenais pas à grand chose, puisque je n'avais pas d'existence sociale au sens d'une appartenance, justement, étant caché, enfin voilà, ne pouvant pas revendiquer ma filiation, j'avais pas l'impression d'appartenir à quoi que ce soit en fait, étrangement.
Donc, pas de caste, pas de milieu.
Non. Ce qui fait que je suis à l'aise partout d'ailleurs. Enfin, c'est le bon côté de la chose, c'est que je suis à l'aise partout et en même temps, je suis très nulle pour comprendre qui est quoi quand j'arrive dans, je sais pas, même à la fac par exemple, avant de comprendre dans quelle hiérarchie s'inscrivent les personnes, c'est pour moi totalement étranger.
Ah oui.
Ouais. C'est un vrai truc. Alors c'est à la fois c'est très chouette parce que j'ai un rapport normal et simple avec tout le monde, mais ça m'a posé parfois certains problèmes. Et donc de ce point de vue-là, bon, c'est compliqué de se construire avec ou de se construire contre, justement quand c'était pas très délimité, quoi. Et puis les révoltes adolescentes, si, bien sûr que j'en ai eu, mais c'était compliqué, c'était confiné à l'intérieur, dans l'intime, et ça pouvait difficilement s'exprimer parce que s'exprimer, ça devenait d'emblée une révolte contre des choses trop importantes à détruire. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas. C'est-à-dire que se révolter vraiment, ça voulait dire faire le mur, ça voulait dire partir, et ça voulait dire, ça voulait dire trahir, ça voulait dire mettre en danger. Donc, ça avait trop de conséquences pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc,
les fameux huis clos dont parlait tout à l'heure Emmanuel Pierrat, qui doivent être à la fois romanesques, mais complètement étouffants aussi.
Absolument. Pour... Et ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir plutôt retourné contre moi la révolte. J'ai fait une crise d'adolescence, mais plutôt... d'ordre dépressif, on dira.
Ah oui,
enfin, j'étais triste, quoi. J'étais très malheureuse quand j'étais adolescente. J'étais très malheureuse, mais pas révoltée au sens où j'étais pas une punk, quoi.
Alors peut-être que pour oublier ces tristesses, la jeune Mazarine regardait ça.
Elle est trop jeune.
Ah, oui, si, mais après. Grise. Voilà, j'adore.
Ah non, mais j'ai vu, ça a été mes premiers grands émois philosophiques. Sensuels. Philosophiques, j'irai pas jusque-là, mais sensuels. Oui. Ah ouais, non, c'était une révélation pour moi. Je sais plus, je crois, j'avais 9 ans quand j'ai vu ce film chez une copine. Et après, je l'ai vu, mais 350 000 fois. Enfin, j'étais obsédée par ce film. Et depuis, j'adore les comédies musicales. Mais c'est,
Ouais, mais justement, c'est marrant. Vous avez fait du théâtre à un moment donné au collège ou au lycée avec un rêve peut-être secret, je sais pas, de devenir comédienne. Est-ce que là, c'était pour la petite fille invisible, cachée, devenir comédienne? C'était pour être vue, visible?
Oui,
à notre corps.
J'ai une expérience de théâtre assez marrante parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. J'en faisais beaucoup. J'aimais être sur scène, j'aimais avoir les plus grands rôles. Enfin voilà, j'ai
les effets de manche.
Voilà, exactement. Et j'aimais vraiment ça. Je pense justement parce que ça me permettait d'apparaître sans apparaître. Enfin, que ça, d'une certaine manière, ça résolvait l'équation de manière assez parfaite. Et puis un jour, ça m'a plus paru possible. C'est-à-dire que je me souviens très bien. C'était lucide, mais je me souviens pas exactement de la pièce, mais je me souviens très bien de ce moment où, avant de rentrer en scène, je me dis, je vais pas pouvoir y aller. Je préfère partir, changer d'identité, ne plus jamais vraiment couper les liens avec tout le monde plutôt que de monter sur cette scène. Et avec cette idée que j'allais mourir, quoi. Et je suis montée sur scène et j'ai eu un trou. Enfin, je savais que j'allais m'effondrer. Et je me suis pas effondrée, j'ai juste un trou qui était pas forcément même visible, j'en sais rien. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais joué au théâtre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que être sur scène serait effectivement l'occasion d'un effondrement. Et après, beaucoup plus tard, je suis quand même devenue prof, je fais des conférences. Enfin, je me suis
remise. On est quand même en scène aussi.
Absolument. Je me suis remise dans cette situation-là qui était une terreur absolue pour moi. Et que j'ai réussi à apprivoiser, quoi. Mais ça a été très, très long.
Combattre ses peurs.
Ouais.
Alors, à chacun ses posters d'enfance ou ses héros de jeunesse. Là, on n'est pas vraiment du côté de Travolta. Mais écoutez plutôt cette voix-là.
Vous n'avez jamais vu l'angoisse de la page blanche?
Devant une dissertation, devant un discours discursif, oui, mais pas devant un poème.
Et votre inspiration vous tient compagnie à coup sûr chaque matin. Vous arrivez là et ça y est, ça, vous pouvez écrire, vous pouvez créer.
Seulement, j'ai d'abord senti que le poème était mûr, que l'enfant était prêt à naître. Le premier jet est très rapide, je ne réfléchis pas, je ne me demande même pas qu'est-ce que je veux dire. C'est après seulement qu'en me relisant, je découvre ce que je voulais dire. Mais l'essentiel n'est pas dans ce qu'on écrit, l'essentiel est dans la manière que l'on écrit. Le Peul du Sénégal définit le poème des paroles plaisantes au cœur et à l'oreille.
Waouh, hein, quelle langue, les paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Vous avez certainement reconnu Emmanuel Pierre Sangor, cela c'était en 82. Aussi admiratif du poète de la négritude que du chef de l'État, de celui qui a pu allier à la fois les mots et un rapport au pouvoir aussi.
Oui, c'est le poète président. Moi j'ai grandi dans la vénération des hommes de lettres et puis des hommes de pouvoir, ou des femmes des femmes de lettres et des femmes de pouvoir.
Mais maintenant, faut faire gaffe à ce qu'on dit.
Hein. Oui, non, mais je me rattrape de moi-même parce que de fait, sur Nissan Jean, il y a beaucoup. Ça va de Louise Michel à Sangor, donc c'est assez vaste comme panthéon. Et puis j'ai grandi aussi, avec beaucoup de liens avec l'Afrique, donc ça rajoute beaucoup. Mais le poète président, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Le père de Mazarine était le poète lecteur ou le poète le plus bibliophile. Enfin, le plus bibliophile. Le président
lettré.
Écrivain, mais lettré, extrêmement lettré. Mais le poète président, c'est encore mieux. Avec 100 000 autres choses, moi, ma grande fierté quand j'étais jeune avocat, c'est d'avoir été recruté pour aller plaider pour Présence Africaine, qui était la revue et la maison d'édition fondée par Sangor. Alors là, voilà, j'ai touché le Graal. J'ai pas touché beaucoup d'honoraires, j'ai dit le Graal. Voilà. Ce qui voulait dire, pour moi, avoir le plus beau blason d'avocature.
Mais pour le coup, là, c'est votre père qui vous a transmis aussi cette passion de l'Afrique, parce que vous êtes parfois un peu dur avec son héritage à lui. Enfin, j'en sais rien. Mais...
Ah non, je suis un peu dur, je suis critique, mais il faut être réaliste. J'ai eu beaucoup d'affection pour mon père. Ensuite, les choses se sont réconciliées. Il est passé de l'extrême droite au marxisme noir, très engagé en Afrique, donc là, ça allait beaucoup mieux. Et il a terminé, peu de temps avant sa mort, en m'envoyant un portrait de Nelson Mandela en avocat, qui faisait 5 mètres sur 4, qui est aujourd'hui dans mon cabinet, et qui m'a été livré depuis l'Afrique du Sud, avec une toile, une toile avec marqué « Mon fils, voilà le plus grand homme que l'humanité ait porté ». Ça veut dire un petit défi. pour un homme qui m'avait dit, quand j'ai prêté serment, tu vas faire un métier de traître.
Un métier de traître, avocat.
Voilà. Donc, c'était, ça montrait l'évolution.
Comme quand
donc,
je
me suis beaucoup
temps.
Réconcilié avec mon père, mais ça n'efface rien à son passé de mercenaire et voilà, de tortionnaire.
De toute façon, il y a un temps pour tout aussi, pour faire la paix avec ses fantômes.
Mais j'ai beaucoup été en Afrique avec mon père et au Sénégal avec énormément de d'émotions. Et j'y retourne toujours, j'y vais 3 fois par an à Dakar. Donc, et pour moi, c'est un endroit très important et la mémoire de Senghor est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. D'avoir réussi cette démocratie extraordinaire aussi, où à Dakar, qui est une vraie démocratie, avec une véritable alternance, il est possible, la chose que je trouve la plus magnifique, c'est de pouvoir aller à l'Assemblée nationale, il y a une buvette au centre de l'hémicycle, où vous pouvez publiquement prendre un café pour suivre ce qui se passe et l'élaboration de la loi en cours. Ce que je trouve extraordinaire. Vous pouvez aussi, et j'en ai terminé pour mon apologie de la République du Sénégal, vous pouvez aussi aller dans un ministère et demander un rendez-vous. Il vous suffit d'attendre et vous allez être reçu. Voilà, ça c'est la démocratie directe ou palpable. Et c'est pas un petit pays, c'est un grand pays, une grande nation, mais une grande nation politique et culturelle.
Même s'il faut attendre un petit bout de temps, j'imagine.
Oui, vous avez un rendez-vous dans la demi-heure avec le ministre. Mais vous êtes reçu par quelqu'un, un directeur de cabinet, un fonctionnaire, quelqu'un qui traite votre problème. Voilà. Alors, on a inventé au Sénégal le médiateur de la République bien avant qu'on ne le fasse ici.
Voilà pour ces posters d'enfance à chacun ses héros, Senghor, Travolta, Kant, Descartes et les autres.
Je gagne au change. Hein, voilà.
Emmanuel Pierrat et Mazarine Pinjou, dans tes rêves.
Passes overseas, brings a ghost to its knees. Feathers flocking into words on a page. Now I've had faith, but I've also had doubt. And I've seen you slipping slowly in the serpent's mouth. On nights that never happened, flights that were abandoned, cut short like a throat, uninvited to sing. As I walked in the street where you shuffled your shoes, staring up into windows, sinking down into blues. My soul and cigarette were signing a truce, and it made me feel for a moment or two like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim. With his hands, lost tongue, do you know where it's been? Tasting poison and flesh. Dragged back from death by the calm of a breath, taken in the fortress of a lover's caress. A bloodthirsty saint with the soul of a whore, dancing in the garden where your babies were born. Fields full of farina, gentle Proserpina, weeping nightly as we cling to her storm. As I walk in the street where you shuffled your shoes, staring up into windows, sinking down into blues. My soul and cigarette were signing a truce, and it made me feel for a moment or two like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim.
C'est Daniel Loupi et Parquet Courts sur France Inter, des rêves, des utopies ce soir, avec l'écrivaine Mazarine Pinjou et l'avocat Emmanuel Pierrat.
To be or not to be?
Dans tes rêves.
That is the question.
Laurence Garcia.
Des utopies, en veux-tu, en voilà. Pourquoi certains vont jusqu'au bout de leurs idéaux et d'autres non? Pourquoi certains passent à l'acte et d'autres non? Changer le monde, se retirer du monde. Quelque part, même si c'est une fiction, votre dernier roman, Magda, Mazarine Pinjot, ces questions, on les retrouve en toile de fond. Elles sont à la fois philosophiques, intimes, existentielles. S'engager, pas s'engager, s'engager intellectuellement par les mots ou par les faits.
Ouais, c'est une question que je continue de poser. Il n'y a pas de réponse d'ailleurs unilatérale dans le livre. C'est qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui, étant entendu que bon, l'engagement politique, il est quand même très éparpillé, très émietté et puis assez dévalorisé et un peu dévitalisé aussi. En tout cas, dans ces formes d'engagement classique, au sens appartenance à un parti. Enfin bon, on voit dans quel état sont les partis aujourd'hui. La question de l'engagement. Oui, bien sûr, elle est cruciale parce que c'est quand même le rapport qu'on a chacun d'entre nous avec la société dans laquelle on vit, quoi. Alors, l'engagement, ça ne veut pas forcément dire un engagement, justement, politique, bien que tout soit d'une certaine manière politique. Ça peut être un engagement dans sa vie, un engagement auprès des autres, etc. Mais aujourd'hui, on va être amené à réinterroger les différentes formes d'engagement. Et c'est aussi l'une des raisons, à mon avis, pour laquelle, justement, l'engagement d'extrême gauche va prendre de plus en plus de poids dans notre société. Déjà, il en a pris, mais ces communautés d'autonomes, ce qu'on appelle les totos, je pense, les ZADIS, enfin la ZAD près de Nantes, là, enfin je pense que ça, c'est des réalités qui vont prendre de plus en plus d'importance, forcément pour l'idéologie qui est sous-tendue par là, mais plus pour l'idée de pouvoir refaire communauté et justement de revivre ce que pouvait être l'engagement au sens de vivre avec d'autres à travers des valeurs communes.
Et ça, c'est à la fois philosophique et c'est bien concret, hein.
C'est super concret là. On voit qu'ils ont quand même gagné une bataille. C'est assez sidérant.
Alors, comment l'avocat, justement, Emmanuel Pierra, qui se dit souvent attiré par tout ce qui est marge ou autre, regarde ces mouvements, alors zadistes ou autres, Mazarine Pinjot, vous, votre Magda, on sent qu'il y a en toile de fond aussi tout le groupe libertaire de Tarnac. Mmh. Comment vous regardez ces jeunes générations, parce qu'ils sont jeunes aussi, on dit souvent ces générations un peu désengagées, néo-rurales, en rupture totale avec ce monde de la consommation?
Non, c'est passionnant. Non, il faut être lucide. Je suis pas persuadé que seul les zadistes aient gagné contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Hein, un peu les experts qui ont chiffré les coûts, un peu deux trois choses. Hein, je dis ça pour Mazarine.
Il y a quand même eu des demandes. Je néglige pas.
C'est simplement qu'il y a un ensemble de choses. Ouais. On n'aurait pas. Je pense que la décision.
Moi, je sais pas. Parce que
moi, je salue la décision.
On
je suis très pour.
Quand même,
donc, voilà.
Ouais. Mais je suis très pour. Il y a eu des référendums qui étaient plutôt en faveur de l'aéroport. Enfin, c'est-à-dire que les habitants se sont. Enfin, moi, je que c'est assez intéressant cette histoire.
Non, ce qui m'intéresse, c'est quand ça pousse la logique jusqu'au bout et quand éventuellement ces gens vont enfreindre la règle de droit parce que la règle de droit est injuste. Par exemple, c'est aussi bien les faucheurs d'OGM avec José Bové, si je relis avec Notre-Dame-des-Landes et les personnages politiques.
Ça réinterroge la question du droit
qui s'interroge
positif,
à l'écologie, qui s'interroge à beaucoup de choses. C'est une méthode, un mode d'action qui passe en apparence par un acte physique et illégal et qui se traduit souvent par un résultat au tribunal où on fait le procès d'une loi et d'une façon compassée de regarder la société. Voilà. Donc c'est là que ça m'intéresse. Que l'avocat que je et puis je suis un citoyen politique, donc j'aime beaucoup la discussion politique, le débat d'idées, et je ne me cache pas d'être à gauche. Donc voilà.
En tout cas, ils ont le mérite, je trouve, de remettre. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord et tout, mais de remettre au cœur le questionnement politique, voire philosophique, c'est-à-dire justement de réinterroger le droit au regard de sa légitimité, mais de sa légitimité non pas positive, mais de sa légitimité justement d'une réflexion autour de la nature, d'une réflexion, enfin je trouve que au moins il pose des questions sur lesquelles on devrait tous s'interroger. Ensuite moi j'aurais pas les mêmes réponses nécessairement, mais je trouve que c'est vachement intéressant, quoi.
Quitte à s'opposer parfois d'ailleurs avec la génération d'au-dessus, parce que dans votre fiction c'est sous l'angle féminin, une maman, une fille, une mère, Magda, d'origine allemande dont on ne sait pas grand chose, et cette fille qui vit en communauté dans une ferme avec des idéalistes plutôt communistes, un peu inspirés du groupe de Tarnac, prêt à saboter, saboter des lignes de train. Et là, elles ne se comprennent pas. Passer aux actes ou pas, être dans l'engagement strictement intellectuel, se retirer du monde ou changer le monde.
Ouais. Et je ne sais pas quelle est la bonne solution. Et ensuite, évidemment, je pense que l'action violente n'a pas forcément d'efficacité, sauf justement à pouvoir créer un procès et donc à créer un espace public où la discussion peut avoir lieu. Mais à quel moment moment un engagement politique devient idéologique. Et l'idéologie, c'est ce qu'il y a de pire. Et en même temps, le vrai engagement nécessite quand même une forme d'aveuglement. Et ça m'intéresse, moi, cette espèce de ligne un petit peu comme ça, très ténue, qu'il faut arriver à tenir pour être dans un réel engagement politique, mais qui demeure un engagement humain, qui intègre le doute, le questionnement, etc. Et de l'autre côté, l'idéologie qui est aussi une facilité, d'une certaine manière. Et parfois, le passage à l'acte peut être purement idéologique, enfin, idéologique au sens négatif du terme, hein, c'est-à-dire au sens du dogme, quoi. Mais en revanche, chacun peut s'engager, effectivement, à travers le rapport à la consommation, le rapport à la communication, le rapport... Tout ça, je trouve qu'il y a une... Rien que ça, ça nécessite déjà une résistance intime, je trouve.
Transmettre l'histoire, transmettre des grandes causes, des idéaux, l'imaginaire, un passé, une enfance revient aussi dans cette fiction, le fait de tout dire ou pas, dire la vérité ou la cacher. On ne racontera pas un bon retournement de situation dans cette histoire de Magda, où la mère n'est pas forcément celle que l'on croit. Dire la vérité, toute la vérité, c'est impossible.
Mais ça dépend de quelle vérité on parle. Ouais. On sait bien qu'il n'y en a qu'un grand V. Oui, ça dépend. Enfin, là, l'avocat n'aura pas la même réponse que
la romancière.
Moi, je pense qu'il faut dire la vérité, mais pas n'importe qui. C'est ça la question. Il faut la dire dans une transmission, évidemment qu'il faut la dire. Il faut la dire parce que c'est le cadeau offert à l'enfant pour qu'il puisse se construire, c'est tout. Y compris dans la détestation qu'il peut avoir de vous, mais au moins c'est lui donner ça pour avoir quelque chose de solide contre
lequel... Vous, avec
lequel...
vos parents, vous êtes dans la transparence. Vos parents, vos enfants, vous êtes dans la transparence totale, quoi.
Ouais, je suis dans la transparence. Alors après, ça ne veut pas dire tout leur raconter dans le détail. Tout n'est pas bon à entendre dans le sens où tout ne fait pas sens. Mais une vérité qui structure quelqu'un et qui donc et qui structure aussi, y compris par son omission, les enfants et les petits-enfants, enfin en tout cas dans l'ordre de la transmission, elle doit être dite. Moi, ça me paraît évident parce que de toute façon, on sait que si elle est omise, elle finira par faire des métastases, quoi. On le sait et c'est un courage de pouvoir dire la vérité, quoi.
En cours, l'avocat dit la vérité, toute la vérité, lui-même.
Vu la moue dubitative. Non, allez, on va dire que Zola écrit La vérité est en marche dans J'accuse, pour dire que ça y est, enfin les choses vont éclater. Et moi, mon métier, mon engagement, ma robe, m'incite à ne pas toujours dire la plus grande des vérités, ou en tout cas à présenter les choses dans une forme de vérité, en sachant qu'il y a en face une autre vérité qui est racontée par le procureur de la République, par l'avocat général, une autre vérité qui est celle du président de la cour d'assises, une autre vérité qui est celle des avocats des parties civiles ou celle des avocats de l'accusé, s'il m'arrive d'être du côté des parties civiles, etc. Donc il y aura une vérité judiciaire à la fin, il y aura un jugement et qui est, pardon, alors dépendant de tas de choses. Est-ce qu'il y a une prescription? Est-ce qu'il y a des preuves, etc. Donc il n'y a pas une vérité absolue qui émerge. Et moi, je pense, je revendique, je fais partie de ces avocats qui revendiquent le droit au mensonge. J'ai beaucoup de confrères qui n'aiment pas ça parce qu'ils pensent qu'on passe pour des gens sans parole. Il y a un proverbe rwandais que j'aime beaucoup qui dit « la langue n'a pas d'os ».
Vive les proverbes.
Donc elle peut se retourner aisément. Mais il ne s'agit pas de mentir pour mentir. Il s'agit simplement à un moment de retenir, parce qu'en face il y a tant d'accusations, tant de haine, qu'à un moment il faut utiliser tous les ressorts de la rhétorique et ceux de l'éloquence pour arriver à finalement faire valoir au minimum un peu d'humanité et gagner quelques points et éventuellement l'emporter. Mais les cas de figure, on va l'emporter en mentant, n'existe pas, il faut être bien clair. Ça permet simplement d'atténuer quelque chose qui est forcément de l'ordre de la souffrance. Un procès, c'est de la souffrance. C'est jamais quelque chose de libératoire pour qui que ce soit, même pour les victimes, pardon, de la pire ou de la famille des victimes. Donc c'est de la souffrance et il ne s'agit pas d'en rajouter inutilement à ceux qui sont jugés.
Oui, et puis en plus, des faits nus, ça n'existe pas. La question de la vérité, de toute façon, elle-même, elle est sujette au doute.
C'est ça. Et un sujet de bac de philo. Ouais. Les vérités portent
des robes. Et elle est totalement changeante.
La vérité prend parfois son temps.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai. Qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Et ce soir, nous sommes en compagnie de l'avocat Emmanuel Pierra et de l'écrivaine Mazarine Pinjot. Il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, vous laissez tomber vos notes, Emmanuel Pierra. Poum, crayon et tout ça.
Je vais totalement improviser.
Voilà, improviser, lâchez-vous. Et surtout, vous fermez les yeux.
Là,
on ferme les yeux. Et vous me répondez les yeux fermés, sans tricher, même l'avocat. Mazarine Pinjot, dans vos rêves les plus fous, voilà, les yeux fermés, là, dans votre noir intérieur, si vous pouviez recroiser la petite gamine que vous étiez, qui se sentait invisible, qui se pensait invisible, cachée, avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à cette gamine aujourd'hui ?
Là, mais je suis allongée sur un divan, là.
Oui, c'est... mais c'est gratuit.
Mais ça n'a pas marché, alors.
Ah bon, mince.
Je lui dirais que c'est vraiment pas bien grave et qu'elle peut... Elle peut dire les choses et elle n'en mourra pas.
La mort, ça revient souvent hein, chez vous. Hein.
Bah oui, ça, je crois que ça concerne tout le monde, malheureusement. Oui.
Mais vous lui dites, ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave.
C'est pas bien grave, le secret qui est autour de toi et qui est sur tes épaules peut être éventé. Tu n'en mourras pas, quoi. C'est quand même, c'était ça. Il n'a pas cette pesanteur et cette grandeur, c'est pas un secret si grand qu'il va t'écrabouiller si jamais tu dis les choses.
Elle aurait du coup gagné peut-être un petit peu de temps en légèreté, cette...
Elle aurait vécu sa vie d'enfant, quoi.
Ouais, c'est ça. Les yeux fermés, Emmanuel Pierra, vous justement, on retourne dans le pays de l'enfance, qu'on quitte pas forcément d'ailleurs, vous pouvez recroiser ce gamin qui était un peu en colère quand même, ce gamin de la banlieue rouge, qui était dans la revanche sociale, en colère contre les bien-nés, contre ceux qui ont tout et ceux pour qui il faut plus s'accrocher. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Non, qui n'était pas en colère contre les bien-nés, qui était en colère contre l'absence de livres, l'absence de journaux autour de lui, et qui rêvait en voyant les noms des rues à Pantin, ville communiste, qui portait des grands noms d'hommes politiques et d'avocats de gauche, qui avaient fait les heures les plus glorieuses de la République. Voilà. Donc, et moi, je me vois toujours, quand je traverse, quand je vais au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, je passe par Pantin, et je fais toujours un crochet par la rue où j'ai grandi. Voilà, parce que j'ai beau être très critique sur l'endroit où je suis né, et la façon dont j'ai été à un moment éduqué, je pense que, voilà, on ne peut pas couper complètement ses racines, et qu'il faut regarder la vérité en face, y compris celle-ci.
La fameuse vérité dont on parlait tout à l'heure. Les yeux fermés, Mazarine Pinjot, voilà, vous avez l'occasion là d'inviter dans un gueuleton imaginaire un philosophe, voilà, philosophe d'avant, pour papoter avec lui, pour recueillir ses lumières, pour picoler un bon verre, ce serait qui ?
Ah, il y en a plein. Mais moi, ça serait René Descartes, c'est mon chéri.
Descartes est mon chéri.
Ah oui, je l'adore. Je l'adore parce que c'est tellement, enfin, on peut le relire tous les jours, à chaque fois, on trouvera quelque chose de nouveau, quoi. Mais voilà, mais après, je pourrais faire des gueuletons tous les jours avec des philosophes différents. Ils sont pas tous marrants. Mais lui, justement, ouais. C'était un bon vivant, en plus. C'était un bretteur, c'était un joueur. Enfin, ouais, je crois que ça serait lui que j'inviterais.
Emmanuel Pierra, dans vos rêves les plus fous, les yeux fermés, vous pouvez être l'avocat du personnage, d'un personnage historique, mort ou vivant. Ce serait qui ?
Ce serait qui ? Ça serait Louise Michel, que j'ai cité à l'heure, ça me semble évident. Mon attachement à la commune est plus que sincère, à la commune de Paris, à l'héroïne rouge. C'est politique, c'est aussi le combat pour le féminisme, c'est le combat pour les idées les plus progressistes, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un mouvement extraordinaire, et une femme extraordinaire, et puis c'est une écrivaine, il faut aussi le reconnaître. Voilà. C'est aussi une franc-maçonne à la fin de ses jours, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible, comme vous l'avez relevé au début d'émission.
Ouais.
Voilà, donc je pense que je pourrais... défendre beaucoup, beaucoup de grandes figures. Les seules grandes figures que je ne peux pas défendre sont celles d'extrême droite, mais ça, c'est un problème d'entre moi et ma conscience.
Voilà. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Merci beaucoup. Ça va, bien rêver, bien voyager. Vous êtes parti avec Descartes, Louise Michel, tout ça. Ça va ?
Oui, ça va très bien. J'attends que Louise Michel m'appelle.
Oui, c'est ça.
Donc, à quel point
dans
on
tes
est
rêves, dans tes rêves, comme bien émission. Pour continuer de rêver avec vous, il y a Magda chez Julliard, signée Mazarine Pinjot, avec un twist final incroyable. Et pour réviser ces grands classiques, ces procès, ces grandes affaires rééditées, revisitées par Emmanuel Pierra, Au Point, Omar M'a Tué, J'accuse, Jugé mai 68, et il y en aura encore qui vont sortir.
Il y a 6 volumes à venir dans l'année, oui.
Eh bien, quelle lecture. Merci, à très bientôt. Bonne
Merci
nuit,
à vous.
Beau rêve.
Nuit.
Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci l'écrivain Patrick Chamoiseau et l'animateur militant des couleurs tropicales Claudie Siard. D'ici là, bien sûr, osez rêver, l'imaginaire est notre plus grand liberté et personne ne peut nous l'enlever.